Bien, comme d'habitude, je vais d'abord, dans les premières phrases, essayer d'expliquer la partie du sujet que nous allons étudier. Alors, l'intitulé qui a été choisi, c'est la notion de miracle, et bien entendu en relation avec l'événement de Hanouka. Alors, je vais vous rappeler très brièvement. Je vais vous rappeler très brièvement un certain nombre de données nécessaires à rappeler, qu'on ne va pas réétudier en détail. Et pour arriver au sujet lui-même, que je vais d'abord définir. Bien, la notion de miracle est un problème qui est en question chez les théologiens. Je vais un peu schématiser la manière dont ce problème se pose entre deux groupes de théologiens. Comme nous parlons français, je vais avoir des difficultés de vocabulaire. Enfin, nous allons avoir des difficultés de vocabulaire. Je vais être obligé d'expliquer un certain nombre de mots hébreux que vous noterez pour recoder le vocabulaire en français. Vous arrivez à m'entendre malgré le froid de Hanouka. Disons, schématiquement, on peut grouper les théologiens sur ce problème en deux groupes que je vais un peu définir de façon abstraite. Ce qu'on va appeler en français les rationalistes et les non-rationalistes, si vous voulez. Et j'ai vraiment réfléchi à ce vocabulaire, étant donné qu'il n'y a pas de vocabulaire précis pour ce que je voudrais expliquer, peu importe l'approximation des termes, c'est les idées qui sont importantes. Alors, ce que j'appelle les rationalistes, c'est ceux qui ont une difficulté à donner une base à la notion de miracle dans sa définition élémentaire, c'est-à-dire l'intervention de Dieu. Et on se rappelle que la première définition de Dieu pour les théologiens, c'est le créateur du monde qui a instauré dès l'origine de l'histoire du monde des lois de la nature à travers ce monde fonctionne. Je rappelle cela parce que c'est très important. Dans la cohérence de la théologie monothéiste, c'est le créateur qui est le garant des lois de la nature. Il n'y a pas d'opposition, de tension, de conflit entre la notion de la nature et la notion de la création dans le monothéisme intégral. C'est un sujet pour lui-même, et je le rappelle pour mémoire, j'espère que c'est suffisamment clair. Donc, ce premier groupe de théologiens ont des difficultés à donner un fondement à cette idée que, à partir du moment où le Créateur a instauré un ordre des lois, retenez ce terme de seder, l'ordre des lois, à travers lesquels l'histoire du monde fonctionne, à travers tous ces phénomènes, quel que soit le niveau des phénomènes, de penser une intervention ponctuelle qui serait le miracle, suspension des lois de la nature, de la part du Créateur lui-même, qui interviendrait en tant que providence. Pourquoi ? Bien, parce que cela impliquerait un shinui, c'est-à-dire un changement, une modification, une altération de la substance divine qui est définie comme simple et immuable. Il y a différentes écoles dans cette thèse. J'en citerai deux. Certains qui identifient l'essence divine avec la connaissance, Dieu connaissant la Déa, la connaissance, et donc un changement dans la connaissance impliquerait un changement dans l'essence. Et c'est la difficulté essentielle pour ce groupe de théologiens, l'idée qu'il puisse y avoir chinouille, changement dans l'absolu, l'absolument simple de la substance divine. D'où vient la difficulté ? C'est qu'on identifie l'essence divine avec la connaissance. Alors vous comprenez quel est l'abord de ce problème, étant donné que les événements du monde sont changeants, sont mouvants, sont un chinouï perpétuel, un changement perpétuel. Le fait qu'il y ait changement dans la connaissance de Dieu au moment où les changements du monde se passent impliquerait qu'il y ait changement dans son essence même, d'où la difficulté. Est-ce que c'est bien clair ? Nous trouvons une difficulté analogue sur une autre catégorie chez un groupe de théologiens qui identifie la substance divine avec sa volonté. De la même manière, s'il y a un changement dans la volonté, ce qu'impliquerait l'intervention ponctuelle dans l'histoire du monde, il y aurait changement dans la substance. Il y a d'autres nuances, mais je me borne à vous indiquer ces grandes tendances, sans même vous donner de nom, ça nous ferait une érudition un peu trop vaste. Je me baserai tout à l'heure sur une mise au point de ce problème du Maharal, dans un chapitre dans sa deuxième préface au livre de Gvurot Hashem sur les événements de la sortie d'Égypte et donc les miracles de la sortie d'Égypte. Et ensuite, nous terminerons sur un texte qui se relie à l'événement de Hanouka. Je reviens donc à la définition du problème. Ce premier groupe de théologiens, donc, que j'ai appelé rationaliste, est parce que les lois de la raison s'opposent à cette éventualité de l'idée d'un changement, d'un chinouille dans l'essence divine. Les lois de la raison sont basées sur le principe d'identité, et par conséquent, toute idée d'un chinouille de ce type est difficile à intégrer dans un système qui a pour postulat que c'est Dieu qui a créé le monde, qui a institué l'ordre des lois à travers lesquelles le monde fonctionne, et par conséquent, supposer qu'il y ait intervention de Dieu après la création impliquerait donc cette difficulté qu'entraîne l'idée du chinouille, l'idée du changement en Dieu. J'ai simplifié le plus possible cette définition, vous allez me dire si c'est suffisamment clair. Ken ? Alors, deux catégories. Ceux qui, par postulat, identifient l'essence divine avec la connaissance, alors que dans l'autre groupe, la difficulté serait évacuée de façon très simple. La connaissance est une fonction et non pas l'essence elle-même. Un attribut, mais non pas l'essence elle-même. Et le deuxième groupe, ceux qui identifient l'essence divine avec la volonté. Et là encore, la volonté est une fonction, un attribut, et non pas l'essence elle-même. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe des théologiens est complètement à l'aise dans ce problème de l'éventualité de la notion de miracle. Encore une fois, un événement d'intervention du Créateur après la création, suspendant provisoirement, ponctuellement, l'ordre des lois de la nature. Et c'est la définition simple du terme de miracle en français. En tout cas, telle que la question se posera à nous dans ce sujet. Je m'excuse pour le manque de chaises d'aujourd'hui. Étant donné le nombre des fêtes de quartier de Hanouka, on nous a emprunté des chaises et Hanouka n'est pas fini. Alors j'espère que vous arriverez quand même à vous loger suffisamment. Donc, eh bien, l'autre groupe de théologiens est très à l'aise dans la lecture du texte biblique tel qu'il est écrit en hébreu et tel qu'il décrit des événements d'intervention à tous les niveaux d'intervention de la Providence. De nouveau, nous sommes dans la cohérence de monothéisme intégral. C'est le Créateur lui-même qui intervient lors même qu'il intervient à travers d'autres catégories de puissances supérieures comme les anges, par exemple. C'est une parenthèse furtive, je n'ai pas l'intention d'entrer dans cette parenthèse. Dans tous les cas, dans le monothéisme intégral, même à travers un ange, selon le récit biblique, d'abord je vous répète chaque fois, on ne sait pas ce que c'est, enfin, officiellement on ne sait pas ce que c'est qu'un ange, par conséquent j'y fais simplement allusion, puisque le récit biblique en parle, c'est Dieu lui-même qui intervient à travers l'intervention de l'ange, entre guillemets. Je voudrais étudier donc à ce sujet un des paragraphes de la deuxième Akdama, de la deuxième préface que le Maharal a consacré à son livre Gvurot Hashem sur un des points particuliers de l'argumentation qu'il oppose à ces théologiens que par méthode j'ai appelé rationaliste. Ça ne signifie pas qu'ils soient opposés à l'idée de miracle. Mais l'idée de miracle leur paraît difficile à intégrer dans une vision des relations entre Dieu, créateur du monde, et l'histoire du monde, basée sur les lois de la raison humaine. Et je dirais pourquoi. Et en général, ces auteurs, qui sont de très grands maîtres d'ailleurs, je ne vais pas citer des noms, mais ce sont parmi les grands maîtres de la tradition juive, dans ce premier groupe de théologiens, explique la chose de la manière suivante. On ne peut pas nier les récits bibliques, ils sont là. Je ne crois pas qu'ils souhaitent qu'ils ne soient pas là. Les récits bibliques sont là. C'est cela qui fait problème d'ailleurs. comme nous allons le voir par la suite, de manière encore plus claire, plus précise, je veux dire. Mais il faut donc expliquer cela en disant que dès la création, Dieu avait prévu qu'il y aurait ponctuellement ces événements qui apparemment sont des exceptions dans l'ordre naturel du monde, tel que raconte le récit biblique. Et je vous dirai un peu mon avis, un peu, comment dire, d'ambiance devant une telle thèse, et ça complique la difficulté au lieu de l'évacuer. Vous comprenez pourquoi ? Ça voudrait dire que, finalement, il y aurait des caprices à l'origine de ce déterminisme de l'histoire du monde qui ferait qu'il y aurait des prévus à l'avance, d'un ordre fatal, de tel ou tel événement, par exemple les événements de la sortie d'Égypte, par exemple l'événement que nous commémorons à Hanouka et qui va nous servir d'exemple, que dès l'origine de l'histoire du monde, il était prévu que lorsqu'il y aurait conflit entre les Judéens et les Grecs, une fiole d'huile brûlerait 8 jours et pas un jour. Vous comprenez comment souvent les rationalistes, avec un souci d'évacuer une certaine difficulté, accumulent des difficultés beaucoup plus grandes pour le repos de l'esprit. Vous avez compris le problème. Eh bien, ce sera donc l'essentiel du sujet que nous étudierons avec le Maharal sur le texte qu'on vous a distribué. Et avant cela, je voudrais lire le passage que nous lisons dans la Tfila, le Al Nissim que nous lisons dans la Tfila, et qui témoigne qu'à Hanouka, on commémore des miracles. Puisque le premier mot de cette Tfila, je vais la lire dans le Noussar Sfaradi, je vous dirai pourquoi. Le texte est le même dans le Noussar Ashkenaz aussi. Il y a un mot qui change et qui me semble important à signaler. Parce que il n'y a aucune allusion dans ce texte au miracle de la fiole d'huile. Ça a dû vous frapper d'ailleurs, chaque année, lorsque vous lisez le Al Nissim de Hanouka, on ne fait pas allusion à cela. Je vais lire le texte et le traduire. Et pour introduire cette première réintroduction, je voudrais rappeler que dans la Gemara, il y a la trace d'une discussion qui implique une hésitation qui a sans doute duré un certain temps avant que la halakha, que les dinim de Hanouka aient été fixés par le Beit HaMidrash des Hashmonaïm, de savoir quoi commémorer dans l'événement de commémoration de Hanouka. Je rappelle ça très brièvement. Et voici le contenu de cette marloquette. Certains pensent qu'il faut commémorer le fait que le jour de Hanouka, les soldats de Juda Maccabi sont entrés dans le temple avec des torches sur leurs lances, parce que c'était Hanouka. La première thèse qui est moins connue que celle que nous réalisons chaque année dans la commémoration. La deuxième thèse est que l'événement, le miracle qui est, mettez provisoirement ce mot dans cette phrase entre guillemets, parce qu'il faudra que j'explique en quoi le premier c'était déjà un miracle. Les torches sur les lances. L'événement de miracle qui est commémoré est que lorsque les Grecs s'étaient emparés du temple de Jérusalem pour l'annexer un rite judéen du paganisme de l'Empire grec, il y a tout un sujet dans cette phrase que je viens de dire, mais je le signale en passant, il ne voulait pas détruire la judéité comme telle, il voulait la banaliser comme une des religions de l'universel humain, style Empire grec, parce que tous les empires de ce modèle se pensaient comme étant l'œcumène, comme on dit en latin, en grec, c'est-à-dire l'universel humain, j'ajoute civilisé, les autres n'étant que des barbares, même pas des païens, et de ramener la spécificité de l'identité Israël à l'indice historique des Judéens dans cette époque à une parmi les cultures religieuses de l'univers. Et ils avaient donc rendu impurs les instruments, les kélim, les ustensiles du temple, et en particulier les huiles dont le grand prêtre se servait pour allumer le candélabre du temple. Et comme vous le savez, il fallait de l'huile pure, c'est-à-dire qui n'ait pas été au contact d'aucune impureté transmise par l'homme, lui-même impur, pour pouvoir assurer la validité du rite de l'illumination du candélabre. Et voilà que toutes les huiles avaient été rendues impures. Or, on a trouvé, je ne dirais pas par miracle, parce que ce mot serait banalisé, on a trouvé une petite fiole qui contenait la quantité d'huile pour allumer une journée, illuminer une journée le candélabre du temple, et elle a duré 8 jours. Et le Beit HaMidrash, le Beit Din, si vous voulez, le Sanhedrin des Maccabim, a institué, en commémoration de ce fait, 8 jours de, que nous allons lire dans le texte, 8 jours de, les 8 jours de Hanouka, tels que nous les connaissons. Vous voyez, deux thèses. Très schématiquement, parce que c'est pas l'essentiel du sujet, en fait, la première thèse semble être dans le sens d'une commémoration de l'événement historique national militaire qui a permis la restauration de l'indépendance de la Judée et la restauration du culte de la Torah dans sa pureté. Et la deuxième thèse semble, si vous voulez, atténuer cet aspect proprement historique et national pour se ramener à un aspect, à la limite, encore une fois j'emploie des termes français, purement religieux. Et à travers les siècles, on s'est habitué à, si vous voulez, à retenir cet aspect purement religieux, d'un miracle religieux, si on peut dire ça sans pléonasme. Je ne sais pas si c'est la religion qui est un miracle, ou bien le miracle qui est religieux. Et il a fallu le temps présent, où le folklore israélien a réinstitué l'autre aspect, c'est-à-dire l'aspect de l'indépendance proprement nationale. Cette question s'étudie pour elle-même, elle se rattache à un problème d'ordre général que nous avons étudié dans notre sujet, la raison pour laquelle il y a une telle réserve dans le Talmud concernant toute l'histoire des Hasmonéens et de leur dynastie et tout ce qui a été l'histoire du deuxième temple après la restauration de l'indépendance judéenne sur les Grecs, plus exactement les Gréco-Syriens. Cela vient de ce que cette dynastie hasmonéenne, à la longue, est devenue sadducéenne, est sortie de la tradition proprement mosaïque, enfin de la loi de Moïse, en particulier sur 2 points que je vous rappelle rapidement. Le premier point, c'est que ils ont cumulé les pouvoirs sacerdotal et politique, ce qui est interdit par la Torah. Au moment de la lutte de l'indépendance contre l'Empire grec, parce qu'il y avait cas d'urgence, Shrat HaTrak, alors il était possible à une famille des Lévites, des Kohanim, donc des prêtres, de prendre provisoirement le pouvoir politique et d'instaurer la royauté hasmonéenne. Mais dès que l'événement avait porté ses fruits, elle aurait dû rendre ce pouvoir politique au pouvoir politique, à la dynastie royale, et rentrer dans le temple en tant que Kohanim. Est-ce que c'est bien clair? Or, il a été institué une théocratie. Et en cela, la Torah a été violée. La dynastie des Hasmonéens sort de la tradition, qui, elle, continue à passer par les pharisiens, qui entrent dans la clandestinité. Le Talmud, c'est le Talmud des pharisiens. Lorsque le deuxième royaume de Juda, devenu d'obédience sadducéenne, aura été détruit par les Romains, il disparaît. Nous ne savons très peu de choses des sadducéens. Seul nous est resté la tradition des pharisiens. Donc il était normal que dans le Talmud des pharisiens, il y ait cette réserve concernant toute cette histoire des Maccabées. Disons plus exactement ce qui est advenu de cette histoire des Maccabées. L'événement lui-même, en tant que réussite miraculeuse, intentionnelle, et je dis cela intentionnellement, va être gardé comme l'événement central de la commémoration de Hanouka, mais l'accent va être mis sur l'aspect religieux beaucoup plus que sur l'aspect national, qui en fin de compte va aboutir à une catastrophe au temps des Romains. La deuxième grande règle de la Torah qui a été violée par les Hasmonéens, c'est la conversion de force de peuplades idumènes au judaïsme. Ça a été à l'origine d'une énorme catastrophe, c'est peu connu sous cette forme. Premièrement, le principe, il est interdit de faire des conversions par groupe. Les conversions sont individuelles. Et les Hasmonéens, pour des raisons d'ordre politique, ont voulu judaïser, rendre judéens les Iduméens. Or, vous savez que finalement, les Iduméens C'est une dynastie idumène qui a pris le pouvoir. Et il suffit de citer Hérode. Et ça me mène à ce que je voulais dire, de cette erreur des Asmonéens, de la conversion de masse des Iduméens au judaïsme, est sorti le christianisme. C'est un autre sujet. Et il m'a suffi de dire Hérode pour vous situer la période. Alors l'identité chrétienne est sortie d'une alliance entre Rome et Édom contre les Judéens. Ça a été facilité par l'existence de toute une population prétendument juive, mais d'origine iduméenne. Est-ce que c'est clair ? Petite parenthèse, ça me semble important de le signaler. Ceux qui connaissent les évangiles savent à quel point certains évangélistes se font une coquetterie de rappeler leur identité judéenne, de mettre l'accent « je suis judéen ». C'est un indice de l'importance du problème que je viens de signaler, de la suspicion sur certains prétendus judéens qui étaient en réalité des iduméens convertis à l'eau bénite, si j'ose dire, au temps de cette dynastie des iduméens, d'ailleurs. C'est clair ce que je veux dire. Alors, je referme la parenthèse. La première étude, pas la peine que je vous distribue les livres, vous connaissez le texte par cœur, supposons, et je l'ai choisi à cause du premier mot, Al-Hanissim. Et je vous signale que le mot de Nes signifie miracle dans le sens élémentaire que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire un événement ponctuel qui, d'après l'ordre habituel, disons, des lois de la nature, n'aurait pas dû se produire. Et il se produit de façon miraculeuse pour assurer un certain salut. Est-ce que c'est bien clair, Ken ? Tout à l'heure, nous aurons à retrouver plus précisément le vocabulaire hébreu de cette notion de miracle. Il y a différents termes, j'en citerai deux en particulier, mais pour le moment, ce terme de nes. Un événement arrive, on réagit en disant « c'est un nes ». Ça veut dire, selon l'ordre habituel de la nature, du tevar, ça n'aurait pas dû se produire. C'est arrivé. Et c'est arrivé au moment où cela assure un salut. Un salut, c'est-à-dire un pourkam. C'est le mot araméen pour dire délivrance. Alors, Al-Hanissim, pour les miracles, vers la pourkam et pour la délivrance. Ne confondez pas avec pulhan, qui signifie. Vous savez ce que ça veut dire pulhan ? Comment vous dites ? On peut dire culte, cérémonie. Okay. Pulhan est un mot qu'on emploie pour dire les cultes païens. Je vais pas dire, Avoda, c'est le culte. Mais Pulhan, c'est le mot hébreu qui traduit cela. Mais, donc, vers la Gevurot, pour les vaillances, vers la Teshuot, pour les saluts, vers la Niflaot, les merveilles. Vous voyez, déjà, on rentre dans un vocabulaire de synonymes, mais ce ne sont pas exactement des synonymes. Vers la Nechamot et les consolations, chez Hassit à la Votenu, que tu as fait pour nos pères, Bayami Mahem, en ces temps-là, en ces jours-là, c'est-à-dire l'époque des Asmonéens, Basmanazé, en ce temps-là, c'est le moment de Hanouka dans l'année. Ça, c'est le pshat. Hein. On peut élargir un peu le sens en lisant Bayami Mahem, c'est arrivé dans ces époques-là, Basmanazé, ça arrive aussi de notre temps. Mais le pshat de Basmanazé, ça veut dire dans ces jours-là de l'année. C'est clair, Ken ? Top. Alors, je signale que c'est la même introduction pour Purim et pour Hanouka. Et quelle est la différence de la nature du miracle à Purim et à Hanouka pour dire qu'à Purim aussi on commémore un miracle, comme à Hanouka. Mais c'est qu'à Purim, les événements de miracle sont appelés Nes Nistar, des miracles cachés, imperceptibles, sinon par un diagnostic qui réclame une certaine chorma, une certaine sagesse, c'est-à-dire des événements qui sont complètement occultés derrière les conditionnements des lois de la nature. Et nous retrouvons cette notion tout à l'heure, discutée par le Maharal à propos du problème général que porterait une attitude qui consisterait à dire « mais il n'y a pas de mystère avec le miracle, tout est miracle ». Alors, fais bien attention. Et c'est pas ce que veut dire la notion de Nes Nistar, le miracle caché. Il y a un ordre de la nature, mais il y a des interstices qui laissent diagnostiquer que, de façon occultée, Nistar, des événements miraculeux se passent, mais c'est caché. Ça ne veut pas dire que tout dans le déroulement de la nature est miracle. Il y a des thèses de ce type, mais ça va être tout à l'heure rejeté par le Maharal de façon claire, en se basant sur une Gemara très claire d'ailleurs. Vous voyez, il y a une stratégie d'une conscience religieuse un peu, comment dire, type foi du charbonnier, si vous voulez, entre guillemets, qui consisterait, pour évacuer le problème de la difficulté de la notion de miracle, de dire « mais il n'y a pas de difficulté, tout est miracle ». C'est d'une toute autre manière que tout ce qui se passe est voulu par Dieu, pas à travers la catégorie du miracle, à travers la catégorie d'une hashgacha dans l'ordre des lois de la nature. Si je crois que tout est miracle, ça veut dire que rien n'est miracle. Est-ce que c'est clair? Nous retrouvons ça tout à l'heure avec le Maharal. Et ça veut dire surtout qu'il n'y a pas d'ordre de la nature, donc il n'y a pas de garant. Du créateur ayant créé son monde et gérant son monde selon sa volonté. Très souvent, la piété naïve, plus ou moins inconsciemment, aboutit à, en tout cas au niveau de l'intelligence, aboutit à se contredire elle-même. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Je ne vais pas dire de choses trop méchantes, mais c'est assez répandu de notre temps, alors je le signale. Et donc, à Purim, il s'agit bien de Nissim, puisque la tefila que je suis en train de lire commence par la même introduction. À Nissim, voilà pourquoi. Mais le nez s'est caché, à travers un événement historique dont on ne peut percevoir l'importance vraiment qu'a posteriori. Et il n'a pas simplement une importance historique, comme tous les événements historiques, qui sont définis comme événements historiques à cause de leurs conséquences, mais d'un événement qui n'aurait pas dû se passer d'après l'ordre habituel de ce que nous savons des lois qui régissent les événements dits historiques. Le fait que le roi Assuérus avait pour femme la reine Esther et que cela a sauvé le peuple juif de ce temps d'une Shoah qui aurait pris des dimensions insoupçonnables dans l'empire de ce temps-là, qui était l'empire perse. Les voies de la providence ont travaillé à travers un récit qui apparemment est très anecdotique. Le miracle est caché. Là, à Hanouka, le miracle est dévoilé. Et c'est pourquoi il y a dans la halakha la nécessité de témoigner publiquement de ce miracle. C'est le Pirsume Nissa. Il y a aussi à Purim, mais à Hanouka, il est beaucoup plus spectaculaire. Je lis. Bime Matatia ben Yochanan Kohen Gadol Hashmonai. Au temps de Matatiaou, fils de Yochanan, le grand prêtre des Asmonéens, ou Banab et de ses fils. Il ne faut pas oublier les fils là. Parce que c'est à travers les fils que, effectivement, les événements proprement nationaux, militaires, ont eu les conséquences que de la révolte spirituelle. Non, parce que Matatiaou a pris la tête de la révolte, il a pris les armes. Mais je veux dire de la révolte dans le sens fondamental du terme, de la révolte de conscience d'un parmi les Kohanim. Lorsque s'est dressé l'empire de Perse, le méchant, Alamecha Israël, contre ton peuple Israël, les Shakeham Mitoratecha, c'est le mot que je voulais signaler. Dans le Nusach Ashkenaz, c'est les Shakecham Toratecha. Alors, je traduis d'abord le Nusach Ashkenaz pour leur faire oublier ta Torah. Alors, dans le Nusach Sfad, il y a les Shakecham Mitoratecha, pour les faire oublier de ta Torah. Il y a là quelque chose d'assez important que je voudrais mettre en évidence avant de lire la suite. Les Grecs ont failli réussir, n'était-ce la fidélité juive à eux-mêmes pendant 2000 ans, à faire que la Bible, la Torah elle-même, apparaisse comme étant de l'héritage universel, culturel, universel, d'indice chrétien, sans plus aucun rapport avec le judaïsme. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là, okay? De faire oublier ton peuple Israël de ta Torah. Et vous voyez qu'il y a là une intention dans la Guirsa Sfaradite qui est très importante, qui a été mise en forme par le Rav Utner dans une de ses drachot sur Hanouka. J'ai utilisé le contenu de sa de son analyse. Alors, je dois dire, pour être objectif, le Rav Utner a donné cette analyse pour justifier le Moussar Ashkenaz. Mais il semble bien que l'analyse de Rav Utner, finalement, justifie plutôt le Moussar Sfarad, grammaticalement, en tout cas. C'est-à-dire que non seulement il y avait un des édits des Grecs d'interdire l'étude de la Torah, il y avait autre, ça fait partie de la suite, où la Avira Mehoker et Sonecha, et de les faire transgresser les statuts de ta volonté, donc y compris la mitzvah de Talmud Torah, mais il y avait une intention beaucoup plus profonde, beaucoup plus insidieuse, c'est de dénaturer le lien entre Israël et la Torah. Et j'ai vécu dans une ambiance culturelle européenne, où en tout cas officiellement c'était le cas. Avant la guerre mondiale, je me souviens, à l'université, quand on citait la Bible, ça voulait dire la Bible des chrétiens. Ça n'existait pas, ça, la Bible des juifs. C'était aussi indécent de relier la Bible aux juifs que, c'est une image qui me revient de mes études de ce temps-là, que de s'évanouir dans un salon Pompadour, une tasse de thé à la main. C'est comme ça qu'on disait à l'époque, à l'université. Très indécent. Et voilà comment les concepts évoluaient. On parlait d'abord des Hébreux, ensuite les Juifs, ensuite les Judéo-Chrétiens, ensuite les Chrétiens. Et tout le reste était oublié. Et la Bible, c'était la Bible chrétienne. J'ai connu des grands penseurs juifs qui connaissaient la Bible en grec et qui ne savaient même pas que l'original était en hébreu. Enfin, ils faisaient semblant de ne pas savoir. Voilà. Je vous citerai des noms, vous seriez horrifiés. Et ils citaient la Bible en grec à bout portant. L'hébreu, et l'idée que les Juifs, c'est ça Israël dont parle la Bible, s'était évacué de la culture générale. Sauf quelques individus, plus ou moins érudits, on ne faisait aucun rapport entre les Juifs et Israël dont parlait la Bible. Parce que Israël dont parlait la Bible, c'est l'Église. Vous avez compris comment ça a failli réussir depuis que les Grecs ont obligé à traduire la Bible en grec. Ça a commencé avec les Septante. Ça s'est vulgarisé avec la Vulgate, et puis ça a continué comme ça. Ve'ata, et toi, Berachamecha Rabim, par ta grande miséricorde, Amatalaem, tu t'es dressé en leur faveur, Be'et Tzaratam, au temps de leur angoisse. C'est plus qu'une angoisse, Tzara. Vous comprenez ça en hébreu, les Tzarot, vous savez ce que c'est? Comment traduire en français, les Tzarot? C'est plus que malheur, c'est plus que souffrance, les Tzarot. En Russie, c'est le tsar. En Italie, c'était le César. C'est la même chose d'ailleurs. En Allemagne, c'est le Kaiser. C'est tous ces tsarotes-là. Et puis, bon. Ravtait Ribam, tu as querellé leur querelle. Oui, l'événement national. Okay, c'est clair. Dantai Dinam, tu as jugé leur jugement. D'ailleurs, tu es intervenu pour juger que c'est eux qu'il fallait sauver. Nakamta et Nikmatam, tu as vengé leur vengeance. Masarta Giborim Yat Halashim, tu as livré des vaillants entre les mains des faibles. C'est là que la notion de miracle commence. Vous voyez, l'ordre des choses veut que les forts soient les forts et les faibles soient les faibles. Où se traduit cette notion de miracle, suspension de l'ordre habituel du fonctionnement des phénomènes du monde, c'est que les forts sont livrés entre les mains des faibles. Et si j'ose dire, de notre temps, nous avons vécu cela au début de l'État d'Israël. Et maintenant, il faudrait peut-être un peu modifier le vocabulaire. Si nous gagnons encore une guerre qu'elle n'existe pas, mais enfin si elle est là et que nous la gagnons, il faudrait dire Masata Giborim Biad Giborim. Et ça aussi, ce serait un miracle. À cause de la suite, Verabim Biad Meratim. Et les nombreux entre les mains des moins nombreux. C'est clair ce que je dis là. Urshaim Biad Tzadikim. Là, c'est encore plus fort. Et les méchants entre les mains des justes. En quoi c'est un miracle? parce que selon l'ordre impersonnel de la nature ne fait pas de différence entre les méchants et les justes. C'est clair. Et les orgueilleux entre les mains de ceux qui étudient la Torah. C'est plus qu'ils étudient, dont la préoccupation, c'est la Torah. Et là, je crois qu'il ne s'agit pas des Grecs et des Judéens, mais il s'agit des mitiavnim, c'est-à-dire il s'agit des Juifs hellénisés, qu'on appelait les Edim. C'est clair. Hein, et il y a toutes sortes d'événements dans notre histoire qu'on peut rattacher à cette notion. Lecha asita Hashem gadol vekadosh beolamar, et à toi tu as fait un grand nom et saint dans ton monde. Retenez cette expression. Shem gadol vekadosh beolamar. Notez-la, nous allons la retrouver dans l'étude du Maharal. L'Amecha Israël, et pour ton peuple Israël, asita tshua gdola, tu as fait un grand salut, ou pour Kan, Kayomazé, une grande délivrance jusqu'à aujourd'hui. Et après cela, tes enfants sont venus sur le parvis de ta maison, au parvis de ta maison, où Finou était Khalecha, et ils ont débarrassé ton sanctuaire, Ken. Ton sanctuaire, et vous rattacherez l'expression à un verset dans l'histoire de Eliezer, lorsqu'il va chez dans la famille d'Abraham pour Rivka, et que on lui dit Faniti et Abait, j'ai débarrassé la maison, Rashi, j'ai débarrassé la maison de l'arbre d'Azara. C'est le même sens que nous avons ici. Finou et Techalecha, ils ont débarrassé ton sanctuaire. Entrez, vous avez des places par là. Entrez par là, vous avez des places. Oui, vous avez des places là, si. Tiharu et Migdashecha, et ils ont purifié ton sanctuaire. Et là, avec Tiharu et Migdashecha, cela implique donc la purification de l'huile pour l'illumination du candélabre. Et ils ont allumé des lumières dans les parvis de ton sanctuaire. Là, j'ouvre une petite parenthèse, et vous me direz, je vais le dire rapidement pour que ça me prenne du temps, mais vous me direz si c'est suffisamment clair. Chaque année, j'y fais allusion, mais je crois que c'est nécessaire. C'est que nous sommes tellement familiers à toutes ces traditions traditionnelles, si j'ose dire, malgré le pléonasme, que nous rattachons la fête de Hanouka à cet événement historique de la victoire des Judéens contre les Grecs, et que pour nous, cela va de soi de penser, par habitude, que c'est à partir de ce temps-là qu'il y a la fête de Hanouka. Est-ce que c'est bien clair ce que je veux dire ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les jours commémorés du calendrier ont, depuis toujours, leur signification dans l'ordonnance du calendrier, et je donnerai d'autres exemples tout à l'heure, et lorsque l'autorité traditionnelle d'un certain temps diagnostique que l'événement historique de signification du jour dans l'année est arrivé, alors elle attribue la commémoration de ce jour-là en relation avec l'événement historique ainsi diagnostiqué. Pour le dire en d'autres termes, on dirait suffisamment clair, Hanouka, le 25 Kislev, je suis toujours gêné par les sonneries adjacentes, ça a sonné, j'entends des voix. Ah, ça a sonné. Le 25 Kislev, depuis toujours, c'est Hanouka. Jusqu'à cet événement historique de la victoire des Judéens contre les Grecs, c'était une fête, disons, folklorique, populaire, qui s'appelait, et c'est un terme qui est revenu de notre temps, Hagaurim, la fête des Lumières, Ken, et à partir de l'événement historique, je m'engage beaucoup dans cette affirmation, mais on nuancera tout à l'heure si vous voulez, à partir de l'événement historique de cette victoire des Grecs, des Judéens contre les Grecs, le Bedin Zasmoné a décidé à partir de maintenant, cette fête a trouvé son événement historique et voilà sa commémoration. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a pris du temps avant que cette halakha ne soit intégrée dans la tradition comme nous la connaissons. Et il y a eu controverse, dont nous n'avons plus tellement de documents historiques, mais on peut juger à quel point la controverse a pu être intense. Il suffit de comparer avec la controverse contemporaine concernant Yom HaTzmaout. Voilà une date, le 5 Iyar, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, qui était connu des kabbalistes depuis toujours. Et puis, petite parenthèse pour éclairer mieux ce que je suis en train de dire. Le calendrier de commémoration des communautés kabbalistes, tous les jours de l'année sont commémorés. Tous les jours ont une signification et dans la communauté officielle, si vous voulez, seuls les jours où des événements fondateurs de l'histoire collective d'Israël sont déjà apparus dans l'histoire, sont commémorés. Mais dans le calendrier des communautés kabbalistes, eh bien, tous les jours de l'année ont une liturgie particulière de chaque jour. Dans d'autres traditions religieuses, c'est le cas aussi. Vous avez des communautés d'initiés qui ont une liturgie beaucoup plus complexe que celle qui est connue dans la communauté officielle. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Donc, par exemple, le 28 Iyar. Le 28 Iyar, c'est le jour de Jérusalem. Je me souviens, avant le 28 Iyar historique de la prise de Jérusalem, de la libération de Jérusalem, le 28 Iyar était commémoré. Et je vous donnerai un certain nombre de repères. C'est la Hiloula de Shmuel HaNavi. Et c'était commémoré au Merkaz Arabe comme le jour de la Aliya du Rav Kook. Et il y avait une petite brochure, je ne sais pas si tu l'as connue, cette petite brochure, sur le 28 Iyar, avant l'événement, okay, il y avait comme titre Hayom Agadol Vernora Hazé Kafret Beyar, ce jour grand et redoutable, le 28 Iyar. Lorsque l'événement est arrivé, les plus étonnés étaient ceux qui savaient. Alors, mais je vais vous donner un exemple beaucoup plus massif. D'abord, je le rappelle pour Hanouka. C'est le fait que le 25 Kislev, qui est le jour du solstice d'hiver dans le calendrier hébraïque, il y avait depuis toujours, depuis le premier homme, dit la Gemara, depuis Adam Arishon, la commémoration de la fête des Lumières. Quand l'événement du risque de la disparition de la lumière, alors là je passe sur un registre symbolique, du risque de disparition de la lumière, la Torah, et puis de sa résurgence par miracle, est arrivé dans l'histoire, on a dit c'est cet événement-là qui est la Hanouka historique. Il y a une Hanouka cosmique. Je vais rappeler comment la Gemara dit, comment le premier homme fêtait Hanouka. Je le rappelle très très brièvement, c'est un midrash que j'aime beaucoup, c'est pourquoi je vous le rappelle, c'est que le premier homme a été créé, selon le récit biblique, le jour de Rosh Hashanah, le premier Tishri. Et ce jour-là, il a mangé une pomme avec du miel, comme vous savez comment on fait chaque Rosh Hashanah. Et alors, un pépin de la pomme a eu pour conséquence que la lumière commence à décroître dans le monde. Effectivement, à partir de Rosh Hashanah, la quantité de lumière dans la journée décroît jusqu'au solstice d'hiver. Alors il a eu peur que par sa faute, la lumière risque de quitter le monde. Quand à partir du 25 Kislev, il a vu la lumière recroître, alors il a allumé des feux pour aider la lumière à croître. Et dans toutes les traditions humaines, à cette époque, il y a quelque chose qui ressemble à la fête de la lumière. Par la suite, le christianisme va transposer le 25 Kislev au 25 décembre, comme par hasard, et va aussi instaurer une fête de la lumière, c'est-à-dire donner une liturgie à sa manière de ce qu'était la fête de la lumière de toutes les traditions depuis le premier homme selon le Talmud. C'est clair? Alors ce qui est vrai pour Hanouka est vrai pour toutes les fêtes. Jusqu'à la sortie d'Égypte, Pessah était connu. Mais ce que commémorait le Pessah jusqu'à la sortie d'Égypte n'était pas encore la sortie d'Égypte. Quand l'événement de la sortie d'Égypte a eu lieu, la Torah diagnostique, à partir de maintenant, Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est clair? J'espère que je chahite pas trop vos habitudes de catéchisme. Top. Voilà, et il faut comprendre cela donc dans ce sens-là. Et vous voyez que ce texte ne fait pas allusion à ce qu'on appelle classiquement le miracle de la fiole d'huile, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, mais désigne comme miracle l'événement lui-même, qui a été énuméré. Je reprends l'essentiel, le fait que Dieu ait, je reprends là, Massarta Giborim Biatralachim, tu as livré des forts entre les mains de faibles, des nombreux entre les mains de moins nombreux, des méchants entre les mains de justes, des impurs entre les mains de purs, des orgueilleux entre les mains de ceux qui se vouent à la Torah. C'est l'événement qui n'est pas normal d'après une vue naturelle de des phénomènes de la nature, des lois de la nature. C'est l'événement qui est le miracle. Et la raison pour laquelle, et là je termine avec cette première partie, la tradition est finalement se fixer sur le miracle ponctuel, la fiole d'huile qui a duré 8 jours alors que d'habitude elle dure 1 jour, a été mise en évidence lorsque la dynastie des Asmonéens, devenue sadducéenne, quitte la tradition et on va un peu occulter tout cet aspect de l'événement pour ne garder que... Ça y est ? Bon, c'était encore dans le temps de ma jeunesse, c'était la tradition habituelle et de notre temps, on retrouve avec l'État d'Israël l'autre dimension de la commémoration. C'est clair jusque-là. Alors, je finis le texte. Ils ont purifié ton sanctuaire, ils ont allumé des lumières dans les parvis de ton sanctuaire, et ils ont fixé ces 8 jours, Behalel ou Brodaha, de louange et de action de grâce. Retenez Halel, nous allons le retrouver dans le texte.